Bienvenue à chacun et à chacune pour cette formation du cycle 2 sur qui est l'Esprit Saint, sa personne et son action. Ce matin, nous avons vu qui était l'Esprit Saint dans le mystère de l'Église, dans l'action sacramentelle, liturgique, dans les vocations, les charismes. C'était plutôt théologique. Cette fin de journée, nous allons voir qui est l'Esprit Saint dans la prière, son action. C'est important et sera complété à cet enseignement qui est donc exceptionnel en deux parties. Un court enseignement qui sera plutôt un extrait de lecture qui vous sera donné plus tard, que vous pourrez écouter sur le site, qui est les dons du Saint-Esprit, les sept dons du Saint-Esprit. Voilà, qu'est-ce qu'on dit quand on parle du don de conseil, de force, etc. Vous aurez des éléments complémentaires. Mais là, ce soir, nous allons voir l'Esprit Saint dans la prière. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, au numéro 741, que l'Esprit Saint est le maître de la prière. L'Esprit Saint est le maître de la prière. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 26, il nous est dit que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint est celui qui nous apprend à prier. Si les disciples un jour ont dit au Seigneur, « Seigneur, apprends-nous à prier », et à partir de cette demande, le Seigneur leur a enseigné le Notre Père, un chrétien médite le Notre Père qui est la totalité de la prière. En fait, toute prière s'intègre dans le Notre Père, mais il le prie dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut lui inspirer telle intercession, tel gémissement inexprimable. C'est Dieu qui prie dans mon cœur et qui guide ma prière. Voilà. En cela, nous pouvons dire que le chrétien vit de vie spirituelle. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Voilà. C'est vivre l'aspiration, le mouvement du Saint-Esprit en nous qui nous guide. Voilà. Laissez-vous conduire par l'Esprit, dira Paul. N'éteignez pas l'Esprit. L'Esprit est notre vie. Voilà, tout cela, c'est la vie chrétienne. Dans le chapitre toujours 8 de l'Épître aux Romains, il nous est dit « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. » Verset 14, verset 15 « L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont peur. » C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. Voilà, nous prions Dieu, notre Père, avec l'Esprit Saint qui nous fait crier Abba. Il y a une intimité qui est donnée. Et donc, maintenant, nous allons rentrer dans comment nous disposer à accueillir l'Esprit Saint, être docile à lui dans la prière, à l'écouter dans notre vie. Nous allons nous appuyer sur ce que dit la tradition de l'Église à travers différents saints, en particulier Faustine, un extrait, Saint Séraphine de Sarov, un saint orthodoxe canonisé en 1988, si je me souviens bien, qui est le grand apôtre de l'Esprit-Saint. Nous parlerons aussi à partir d'un livre que vous pourrez aller voir, il en dit beaucoup plus que moi, et voilà, moi j'ai pris des éléments de lui. Voilà, c'est le père Jacques Philippe, qui est un prêtre des Béatitudes, qui dit justement « À l'école de l'Esprit-Saint », son livre qui est très bien, qui donne des éléments. Voilà, nous citerons aussi des spirituels d'antan, Saint-François de Sales, mais aussi le père Lallemand, qui est un grand spirituel. Voilà. Et peut-être déjà se rappeler des éléments de ce que dit l'Église. Voilà. On en a entendu l'Épître aux Romains, entendant encore des paroles de la première épître aux Corinthiens. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint. L'Église ajoute, chaque fois que nous commençons à prier Jésus, c'est l'Esprit Saint qui, par sa grâce prévenante, nous attire sur le chemin de la prière. L'Église nous invite à implorer chaque jour le Saint-Esprit, spécialement au commencement et au terme de toute action importante. Voilà. Est-ce que dans ma vie, quand, vous savez ce dicton, pense avant d'agir, le chrétien peut rajouter, prie avant de penser. Et il peut rajouter, commences ta prière par l'Esprit Saint. Voilà. Est-ce que je prie l'Esprit Saint qui me conduit dans mes décisions, dans ma journée, pour que mon ordinaire soit sanctifié, pour que l'ordinaire soit extraordinaire. Voilà. Priez, l'Église nous le redit, l'Église nous invite à implorer chaque jour l'Esprit Saint, spécialement au commencement et au terme de toute action importante. Saint Grégoire de Nazianze, un père de l'Église, disait « Si l'Esprit ne doit pas être adoré, comment me divinise-t-il par le baptême ?» Évidemment, l'Esprit doit être adoré. C'est lui qui me divinise, c'est lui qui me sanctifie, c'est son rôle. Et s'il doit être adoré, ne doit-il pas être l'objet d'un culte particulier ? Ajoute-t-il, s'il doit être adoré, ne doit-il pas être l'objet d'un culte particulier ? Qu'en est-il de ma prière d'invocation au Saint-Esprit dans ma vie ? Est-ce que je connais mon Veni Creator ? Est-ce que j'ai une prière particulière comme cette prière très ancienne de la liturgie byzantine qu'on a repris ? Voilà, on appelle ça un tropaire des vêpres de Pentecôte. Roi céleste, esprit consolateur, esprit de vérité, partout présent et emplissant tout, trésor de bien et donateur et source de toute vie, viens, habite en nous, purifie-nous et sauve-nous, ô toi qui es bon. Voilà, invoquez l'Esprit Saint. Voilà. Grand spirituel du XXe siècle, par Marie-Eugène, disait que l'Esprit Saint, c'était son grand ami. Voilà. Il ajoutait, j'ai des raisons de pouvoir le dire. Parce que de fait, il l'avait assez fréquenté, il a écrit des livres dessus. Donc, vraiment nous, il faut qu'on connaisse cette personne, même si elle nous renvoie toujours au Fils et au Père, comme nous l'avons dit ce matin, elle est la grande personne discrète. Toujours est-il, la prière chrétienne au Saint-Esprit n'est pas facultative. N'est pas facultative dans les journées. Nous nous préparons dans la liturgie, avant la Pentecôte, avec une grande neuvaine au Saint-Esprit, mais nous pouvons faire des neuvaines au Saint-Esprit dans nos vies, pour demander des grâces, pour être éclairé, voilà, pour guider la prière. Le maître intérieur de la prière, l'artisan de la tradition vivante de la prière. On peut avoir des méthodes de prière. Pour les commençants, certains, on propose des méthodes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en demander au prêtre. Comment prier telle ou telle manière? Il y a plein d'écoles. Différentes jésuites, lectio, chapelet, carmélitaine, etc. Toujours est-il, une méthode ne fait pas tout. Le grand artisan de notre prière, c'est l'Esprit Saint. Je me souviendrai de ce qu'a dit un jour un prêtre qui lui-même, dans un livre, confessait qu'au séminaire, il a eu une révélation quand un père du séminaire lui a dit « C'est d'abord le Saint-Esprit qui prie dans votre prière, c'est pas vous. » Donc il nous faut poser un acte de foi en l'invoquant que nous, on est ce second. Hein, on dit que Jean-Paul II, quand on lui a posé des questions sur la prière, il en a répondu une en disant « je fais écouter, voilà ce que je fais dans la prière, j'écoute. » Et une autre fois, le pape y prie comme l'Esprit Saint lui donne de prier. Donc cette conscience que l'Esprit Saint, il est là et il fait son travail. Voilà. C'est pas du coup un effort la prière d'abord. C'est « tu es là, tu vas m'aider à prier ». C'est sec, mais t'es là. Il y a quelque chose, ben merci, tu me guides comme tu veux. Voilà. C'est important. Alors, j'insiste là-dessus, si le Saint-Esprit, c'est le sanctificateur, la vie chrétienne, c'est de devenir un saint, Jésus, c'est le rédempteur, celui qui pardonne et qui sauve. L'Esprit-Saint, c'est le sanctificateur, celui qui me divinise de l'intérieur, qui me fait devenir vraiment comme Dieu, ressemblant à Dieu, créé à l'image et à la ressemblance, à ressemblant à Dieu, qui va me mettre dans la gloire de Dieu. La prière, c'est l'ombre du Saint-Esprit qui descend sur nous, nous l'avons dit ce matin. Ça peut être en mode, on pourrait croire que c'est un mode standard, c'est-à-dire il y a un type de chrétien, il faut remplir des conditions morales, certains nombres, une fois que c'est fait, on est un bon catho, on est saint. Non, l'Esprit-Saint va personnaliser tout, ma prière, ma manière d'être. Et voilà ce que dit Sœur Faustine dans son petit journal. « Ô mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier, il faut seulement un petit peu de bonne volonté. Et si Jésus découvre ce minimum de bonne volonté dans l'âme, il se hâte à se donner à elle. Et rien ne peut l'arrêter, ni les fautes, ni les chutes, absolument rien. Jésus est pressé d'aider ses âmes. Et si l'âme est fidèle à cette grâce de Dieu, elle pourra en peu de temps parvenir à la plus haute sainteté qu'une créature puisse atteindre ici-bas. Dieu est très généreux et ne refuse pas sa grâce à personne. Il donne même plus que nous ne demandons. La voie la plus courte, c'est la fidélité aux inspirations de l'Esprit-Saint. La voie la plus courte, c'est la fidélité aux inspirations de l'Esprit-Saint. Nous sommes appelés à la sainteté. Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, l'a rappelé. Mais ce n'est pas standard. Ça consiste, comme nous le redit Saint Faustine, à être docile aux inspirations du Saint-Esprit, à être guidé par l'Esprit. Voilà. Et donc, comment on est guidé par l'Esprit-Saint? Tout d'abord, peut-être, la sainteté, c'est pas l'œuvre de mes propres forces. Nous ne sommes pas pélagiens, c'est une hérésie des premiers siècles. Je fais plein de choses et au bout d'un moment, j'ai la récompense. Non. Nous participons, nous sommes collaborateurs, mais le premier, c'est le Saint-Esprit, c'est pas nous. Voilà. La grâce est première. La sainteté, donc, c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et voilà ce que dit le Père Philippe, le Père Jacques Philippe. L'illusion commune est de penser que la sanctification soit l'œuvre de l'homme. Il s'agit d'avoir un programme de perfection bien clair et de se mettre à l'œuvre avec courage et patience pour le réaliser progressivement. Tout est là. Malheureusement ou heureusement, tout n'est pas là. Qu'il faille du courage et de la patience, certainement, mais que la sainteté doit être le résultat d'une réalisation d'un programme de vie que nous nous fixons, certainement pas. Voilà ce que nous dit cet auteur spirituel. Et pour quelle raison la sainteté ne relève pas d'abord d'un programme? Parce que tout d'abord, la tâche est au-dessus de nos forces. C'est ce que dit Jésus en Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire dans la vie spirituelle. Ben ça, on n'en est pas convaincu. On n'en est pas convaincu. Et même le prêtre qui vous parle, toujours besoin de se convertir, on n'est pas vraiment sûr qu'on peut rien faire sans Dieu, parce qu'on peut faire un maximum de choses. Et bien pourtant, c'est un peu comme ça qu'on agit dans la prière. Je vais faire plein de choses, je vais dire plein de choses. Mais est-ce qu'on n'est pas convaincu qu'on peut rien faire sans demander l'Esprit-Saint dans la prière? Voilà. Vouloir le bien, nous dit encore Paul, dans l'Épître aux Romains, est bien à ma portée, mais non de l'accomplir. Vouloir le bien est bien à ma portée, mais non de l'accomplir. Donc le programme de vie, c'est bien, mais je ne vais pas y arriver. Et Paul dira aussi, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Donc là, on voit bien Saint-Esprit à l'œuvre. Quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas réellement, en réalité, nous changer. Dieu seul peut venir au bout de nos défauts, de nos limites, dans l'ordre de l'amour. Dans l'ordre de l'amour. Il y a des éléments où nous resterons boiteux, peut-être. Mais nous pourrons être des saints. Dieu nous aura vaincus dans l'ordre de l'amour. Et il y a une dimension de « il nous aura vaincus ». On aura accepté que sans lui, on ne peut rien faire. Des fois, il faut du temps. Il faut du temps. Si vous connaissez cette anecdote de Saint Jérôme, qui avait tout donné, qui vivait comme un ascète, qui contemplait l'Écriture, c'est le patron des exégètes. Et Dieu, un jour, intérieurement, lui dit « Jérôme, est-ce que tu m'as tout donné ?» Puis il dira « Ah oui, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon corps, enfin, je t'ai tout donné, c'est pas mal, hein ?» Puis à un moment donné, le Seigneur dit « Non, non, tu m'as pas tout donné. Jérôme, donne-moi ton péché. Voilà, ta limite, c'est moi qui travaille. » Voilà. Il y a toujours un peu le truc qu'on garde derrière. Eh bien ça, ça a besoin d'être sanctifié. Donc voilà, la tâche n'est pas au niveau de notre force, il faut l'accepter. Ce n'est pas une bénédiction de surface qu'en demandant le Saint-Esprit, c'est « tu me saisis totalement, tu vas me conduire, moi je ne peux pas faire grand-chose, et plus je découvre, en fait je ne peux rien faire » au niveau de surnaturel. Au niveau naturel, je peux faire plein de choses, ma prière peut même être naturelle, mais le but c'est qu'elle soit surnaturelle. Dieu seul aussi connaît le chemin de chacun. Il y a autant de formes de sainteté et donc aussi de cheminement vers la sainteté que de personnes. Voilà, nous sommes plus différents dans les âmes encore que nous le sommes dans le corps. Des fois, on a des sosies. Il n'y a pas de sosie au niveau des âmes. Donc Dieu, le Saint-Esprit, guide comme il veut. Et donc du coup, l'importance d'écouter les inspirations de Dieu. Et donc de savoir écouter les inspirations. La perfection se rejoint non pas tant dans la conformité extérieure à un idéal que par la fidélité intérieure à des inspirations. Je répète, la perfection chrétienne ne se rejoint pas tant à la conformité extérieure d'un idéal, mais par la fidélité intérieure à des aspirations. C'est la personnalisation de chacun par Dieu. Chaque fois que nous sommes fidèles à répondre à une motion du Saint-Esprit, Dieu nous en donne une autre. Dieu nous guide, Dieu nous bénit. Dieu, voilà, nous guide. Alors, comment être ? C'est exactement ce que dit le Seigneur. Par exemple, vous avez ça en Matthieu 15, 10, on peut spirituellement l'interpréter comme ça. « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en de petites choses, tu seras établi en beaucoup. » On est fidèle à une inspiration de Dieu, bon et fidèle serviteur, le Seigneur va déployer d'autres inspirations et nous guider. Voilà. Donc il faut désirer être guidé par Dieu, il faut désirer entendre Dieu, il faut désirer recevoir des inspirations. Et nous n'en recevrons pas tous en même quantité, c'est pas un problème. Le Saint-Esprit, c'est ce qui est bon pour nous. Mais il faut quand même être guidé. Voilà. Faut lâcher prise. Faut être guidé. Premièrement, la fidélité à la grâce attire la grâce. De Saint François de Sales, un docteur de l'Église. Voilà. Un grand évêque. Et aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit pour la spiritualité des laïcs. Voilà. Bien avant le Concile Vatican II. N'est-ce pas? Alors, quand on fait très bien son profit d'une inspiration que notre Seigneur donne, dit-il, il en redonne une autre. Et ainsi, notre Seigneur continue ses grâces à mesure que l'on en fait son profit. Voilà. Très important, très important. De Sainte Thérèse de Lisieux, la pratique de la vertu me devint douce et naturelle. Au commencement, mon visage trahissait souvent le combat. Faut être réaliste, faut y aller aussi, hein. Mais peu à peu, cette impression disparut et le renoncement me devint facile même au premier instant. Jésus l'a dit, à celui qui possède, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Pour une grâce finalement reçue, il m'en accordait une multitude d'autres. Voilà, la capacité à accueillir ce que Dieu donne. Ce qui est assez étonnant là-dessus, c'est que souvent on demande. C'est très bien, il faut le faire. Demandez, vous recevrez. Mais est-ce que je suis capable d'abord de recevoir ce que Dieu me donne? La grosse question, ah bon, il me donne des choses? Ben ouais. Et la question, c'est que si je ne reçois pas ce que Dieu est en train de me donner, il est difficile pour moi de prendre la main de Dieu qui est en train de me donner ce qu'il est en train de faire pour faire le chemin de la sainteté. Je peux faire du surplace en demandant toujours ce que je crois avoir besoin, moi. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais Dieu me dit, mais je suis en train de te donner ça parce que c'est bon. Mais tu ne l'as pas vu ça. Prends-le. Voilà. À celui qui possède, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Être guidé par le Saint-Esprit, c'est croire que vraiment Dieu donne ce qui est bon maintenant pour moi. Et j'ai d'abord plus à recevoir qu'à demander, puisqu'il va faire quelque chose. C'est ça, être fidèle à l'inspiration, à la grâce. Cette docilité à l'Esprit-Saint, il faut être clair, est une obéissance toujours, une obéissance de toujours, aux événements, à la prière, à l'écoute, en permanence. Il faut être sensible à ça. Mais, finalement, c'est une source de joie et de bonheur. C'est exigeant. C'est exigeant. Parce que l'Esprit souffle comme il veut et on ne sait pas où il va. On voit ça dans Jean 3, 8. Jésus explique la vie spirituelle à Nicodème, qui pourtant savait plein de choses, et lui dit, mais tu es maître en Israël et tu ne sais pas ces choses-là. Ce jour-là, Nicodème se prend, on pourrait dire comme les jeunes, la honte de sa vie, parce qu'il est maître spirituel, ben, il ne sait pas vraiment ce que c'est que la vie dans l'esprit. Donc il a la honte de sa vie, on pourrait dire. Et ben pourtant Jésus lui explique que voilà, celui qui renaît dans le baptême, il vit de l'Esprit Saint, et normalement il est guidé par quelqu'un qui le conduit, et on ne sait pas d'où il vient ni où il va, parce qu'il est conduit peu à peu, et il doit se laisser guider en recevant les inspirations. Voilà. Alors comment faire pour faire éclore ces inspirations, si nécessaires, qui sanctifient, qui nous guident, qui, elles, vont nous mener? Eh bien, il y a plusieurs attitudes qui me semblent importantes, et je m'appuierai à nouveau sur le père Jacques Philippe, qui sont des attitudes importantes que nous pouvons plus ou moins vivre dans nos vies. C'est bon, à la suite de cet enseignement, de se dire quelle attitude vraiment je vais mettre en place pour essayer de commencer en désirant. Alors moi, je le redis encore, il faut désirer être guidé par le Saint-Esprit. Il faut l'invoquer dans la prière, il faut l'invoquer dans les actions, et il faut aussi lui demander « inspire-moi ». Voilà. Peut-être pas en lettres d'or, il va me parler, mais « inspire-moi ». Des motions, etc. Et de vrai, dans le temps, on va vérifier, l'arbre a ses fruits. On verra si ça vient de Dieu. Mais faut oser. On y va, on ose. Et voilà des attitudes qui sont importantes. Tout d'abord, peut-être, pratiquer la louange et la gratitude. Pratiquer la louange et la gratitude. Très important, ce qui nous empêche souvent de recevoir des grâces plus abondantes de la part de Dieu, c'est peut-être tout simplement, faut se le dire, qu'on est incapable de reconnaître celle qu'il nous a déjà accordée. Voilà. On n'a pas été capable de prendre conscience de ce qu'on a reçu, ou même de recevoir. Voilà. C'est très important d'avoir conscience de ça. Ça nous remet dans le chemin que Dieu est en train de faire. Thérèse de Lisieux confirme cela en disant ce qui attire le plus de grâce du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres. Alors il ne s'agit pas là d'un calcul en disant je remercie puis j'emmagasine dans la banque, mais c'est de prendre conscience en effet que notre ingratitude, notre méconnaissance de l'œuvre de Dieu en nous, nous replie sur nous-mêmes. Il y a un vrai repli à qui c'est fait. Et donc c'est évident que celui qui loue, non pas simplement de manière béate, mais en ayant conscience, pour telle grâce reçue, merci Seigneur, il est dans le chemin de recevoir et d'être capable de recevoir à nouveau. Sinon, le danger d'une sorte de demande toujours auto-centrée, c'est le repli. Et le repli ne permet pas l'ouverture. Et donc le vent frais du matin, il ne rentre pas dans la pièce. Il n'y a rien à faire. On est replié dans sa forteresse. On peut prier en mode forteresse. C'est des choses qui arrivent. Les désirer, je vous ai dit, et demander les inspirations. Demandez, l'on vous donnera. Nous croyons que c'est une parole du Seigneur, que c'est vrai, donc demandons-le. Donc on peut dire au Seigneur, inspire-moi dans toutes mes décisions et fais que je ne néglige aucune de tes inspirations. Mais du coup, ça devient exigeant, ça. S'il peut arriver des choses, il va falloir suivre. Mais c'est vrai. Inspire-moi dans toutes mes décisions et fais que je néglige aucune de tes inspirations. Alors on va rentrer dans le détail maintenant, les inspirations. Se décider à ne rien refuser à Dieu. Ah oui, il m'a dit telle chose. Mais t'as suivi ou pas? Ah ben non. Ah, t'as donné l'inspiration là, qu'est-ce qu'on en fait? Se décider à ne rien refuser à Dieu. L'importance, c'est une forte et constante détermination à obéir à Dieu en toute chose, grande ou petite, sans exception. Grande ou petite, sans exception. C'est très important. Que me dit la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que je la mets en pratique? Tiens, j'ai ce sentiment qu'il faut que j'aille visiter quelqu'un là. Tiens, ça serait pas mal si je faisais ça. Tiens, mon confesseur m'a dit ça. Tiens, mais ça, le Saint-Esprit nous en dit un paquet tous les jours. Je le mets en pratique ou pas? Voyez? Est-ce que je suis docile à ces inspirations du Saint-Esprit? Voyez? Et en même temps, très important, ne tombons pas dans le scrupule, ni une espèce d'angoisse spirituelle disproportionnée. Oh, j'en ai eu 10 inspirations, j'en ai fait 8, et puis la 9e, je l'ai oublié, oh là là, ça y est, j'ai raté le chemin de la sainteté, aujourd'hui on repart à 0. Non, il faut remettre ça, et saint François de Sales disait là-dessus qu'il faut aimer l'obéissance, il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance. Il faut aimer l'obéissance plus que craindre la désobéissance. Voilà. On fait confiance, si on a fait de son mieux mais on est attentif, eh ben on remet à Dieu ce qu'on n'a pas pu. Ben peut-être que ma fenêtre elle est bouchée, le vent frais, il passe pas très bien, mais Seigneur tu le sais, on repart. Puis comme je suis un peu sourd, tu vas répéter. Généralement, comme on est un peu sourd, il répète. Voilà. Si nous sommes négligents, il est vrai par contre que si nous sommes négligents volontairement, l'émotion du Saint-Esprit risque de se rarifier. À qui a sera donné, à qui n'a pas sera retiré même ce qu'il a. Cette parole nous paraît injuste, cette parole de Dieu, en Luc 19, 26. Pourtant, c'est vrai. Celui qui reconnaît qu'il a, l'action de grâce, de reconnaître qu'on a reçu de Dieu, il se rend compte qu'en fait, il peut recevoir plus. Celui qui n'a pas, qui pense rien avoir alors que Dieu donne, ben, va se retrouver au bout d'un moment sans rien. Voilà. C'est vrai. Vous voyez, c'est tellement vrai que c'est pareil pour les péchés. Je fais un parallèle avec les péchés. Quelqu'un qui dit « j'ai pas de péché », c'est pas vrai. C'est qu'il n'a pas la lumière pour voir. Plus vous avez la lumière, plus vous voyez, vous faites des péchés. Ben c'est pareil dans l'union à Dieu. Plus on a la lumière, plus ça, on voit la lumière et on avance. Voyez. Celui qui a, il recevra encore. Celui qui n'a rien, ben c'est bouché. Il faut déboucher. Ça, c'est important. Alors, on s'appuie vraiment, objectivement d'abord, sur qu'est-ce que nous dit l'Écriture, qu'est-ce que nous dit l'Église, quelles sont les exigences de ma vocation propre, de marié, de consacré, d'étudiant, de professionnel. C'est très important. Et de savoir renoncer à ma volonté là-dedans. Je vais prendre un exemple concret. Ça va parler tout de suite. C'est Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, je crois, qui disait cela en voiture. À plus de 130 km/h, le Saint-Esprit n'est plus dans la voiture. Voilà. La loi nous demande de ne pas faire plus de 130 sur l'autoroute. Ben, le Saint-Esprit s'y soumet. Parce que le Seigneur nous dit qu'il faut obéir aux lois humaines. Voilà. Et que ça, faut pas attendre une inspiration de Dieu, que Dieu demande autre chose. Et il y a plein de choses où Dieu obéit dans les lois humaines. Parce qu'il a accepté cela. De la même manière, pourvu que c'est pas moral, mais il a accepté de la même manière dans notre état de vie. Voilà. J'ai l'impression que le Saint-Esprit me demande d'aller avec telle personne. Ben non, mon grand, tu es marié là, non. Le Saint-Esprit te demande pas ça. Vous voyez. C'est l'obéissance à son devoir d'état, à sa vocation. Ça, c'est du standard. Mais après, le Saint-Esprit va personnaliser. Donc on peut s'aider de tout cela. J'ai parlé de désirer, de demander, de rien refuser. Et si le Saint-Esprit nous donne des inspirations qui peuvent un petit peu nous déstabiliser, ça peut arriver. Eh bien, essayons. Essayons quand même. Après discernement, s'il n'est pas contraire à notre vocation, au bon sens, à l'enseignement de l'Église, essayons. Parce que ça peut être une vraie joie. Par exemple, une personne a été interpellée pour faire du porte-à-porte. Oh non, je ne suis pas capable. Peut-être que le Saint-Esprit l'inspirait. Elle y est allée, est revenue avec un grand sourire béat. C'était génial. Ça a débloqué en elle des choses. Voyez, ne rien refuser au Seigneur. Ça peut être plein de choses comme ça. Moi, je me souviendrai de quelqu'un qui, dans un groupe de prière, on lui a dit à un moment donné, tu vas dire un témoignage. Personne au fond du groupe. Ah non, non, certainement pas, à moi, de rien refuser à Dieu. Viens. Personne n'est allée, elle a dit son petit truc, elle s'est sentie nulle, s'est rassise. La fin du groupe de prière, c'était génial, toute personne arrive, c'était génial ce que tu as dit, oh, ça m'a touché. Oh. Faut être docile au Saint-Esprit. Je vais donner encore un exemple, histoire vraie. Un prêtre qui parle de quelque chose en enseignement, puis au moment donné dans le cœur, du Saint-Esprit, il sent qu'il faut qu'il dise qu'il est heureux d'être prêtre. Le truc qui n'a rien à voir avec le topo. Et là, ça vient de Dieu, ça n'est pas de Dieu. On ne sait pas. Mais on se décide à rien refuser à Dieu. On verra l'arbre à ses fruits. Ah, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne sais pas comment il fait. Hein. Il a dû s'arranger à un moment donné pour sortir la phrase. Voilà, hop, hop, hop. Et hop, il amène le truc. Puis il dit, bah, je suis heureux d'être prêtre. Alors, il se dit, ça c'est dit. Voilà, okay, pourquoi j'ai dit ça? Continue le topo, voilà, si rien ne compte. Alors la personne est un peu déstabilisée. À la fin du topo, il y a deux jeunes qui viennent le voir. Mon père, on réfléchissait à devenir prêtre, on est heureux que vous nous l'ayez dit. Allez, motion du Saint-Esprit. Alors, on voit l'arbre à ses fruits. Des fois, on ne verra pas toujours, mais là, il y a un exemple type, très simple, très simple. Mais ça touche. Être prêt à rien refuser à Dieu. Voilà, Dieu veut servir de moi. Le problème, c'est quand on veut accepter que Dieu se serve de nous, c'est selon nos calculs. Ce jour-là, ce prêtre, ben, il est déstabilisé pour trois fois rien. Mais en fait, préparons-nous, la vie chrétienne nous déstabilise pour trois fois plus. Donc, pour même dix fois plus. Donc, il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt à accepter. Tu veux être dans la mouvance du Saint-Esprit, il faut que tu te prépares à être déstabilisé. Non pas qu'il va chambouler ta vie, mais ça peut secouer un peu. Voilà. Ça, c'est important. Du coup, aussi, on pratique l'abandon. Pourquoi ? Parce que profondément, il y a une forme de démaîtrise à avoir sur sa vie. Il y a une forme de démaîtrise. Si l'Esprit Saint est l'artisan, il me guide, ben, j'ai pas la prise sur ce qu'il est en train de faire. Et les événements de la vie, en fin de compte, sont l'expression la plus sûre de la volonté de Dieu. Parce qu'effectivement, ils ne risquent pas d'être dans une interprétation, de tomber dans l'interprétation subjective. Voilà. Il y a des événements objectifs aussi, un me guide. Eh bien, c'est aussi la volonté de Dieu. Et là, je pense qu'il est très important que nous cultivons la spiritualité de l'instant présent. C'est-à-dire, Jésus, je te rejoins dans cette situation-là, tu m'apportes ce qu'il faut maintenant. Voilà, pas demain, maintenant, dans cette situation où j'en suis. Et tu vas me guider. Louange à toi, maintenant donne-moi de voir ce que je suis en train de recevoir, de voir ce que tu vas me donner. Et d'être déplacé comme tu veux, de consentir à accepter ce que tu vas me donner. Et éclaire-moi, je prie l'Esprit Saint, et je m'abandonne, et je désire, voilà. Ça c'est très important. Voilà. Ce qui est très important, c'est de faire du coup comme aussi fait Sainte Thérèse. Donc c'est pas un fatalisme, il ne s'agit pas de tomber dans l'abandon, dans un fatalisme, qui rendrait complètement passif. Je déroule, le tapis roulant se fait tout seul. Non. Mais il s'agit de collaborer à ce que nous vivons, mais dans un abandon confiant entre les mains du Père. Voilà. Vous voyez, vous pouvez même vous tromper. On peut se tromper en croyant que ça vient de Dieu ou pas. On peut se tromper dans une décision importante. Eh bien, on la remet à Dieu. Seigneur, tu l'as, tu me guides. On la remet à Dieu. Faire comme la petite Thérèse faisait à nouveau. Elle disait « Je choisis tout ». Sous-entendu, très important, je choisis tout ce que Dieu veut pour moi, je ne me contente pas de subir, mais par une adhésion libre de ma volonté, je décide de choisir ce que je n'ai pas choisi. Par une décision libre de la volonté, je désire de choisir ce que je n'ai pas choisi. Sous-entendu, je vis le réel à un niveau supérieur qui est le surnaturel. Je ne vis pas le réel en mode passif, en mode humain. Je vis le réel en mode chrétien, en mode surnaturel. Je rappelle les vertus théologales, foi, espérance, charité, et l'Esprit Saint est guide. Voilà. Voilà, et vraiment cette décision de rentrer là-dedans fortement. Extérieurement, ça change rien pour la situation. Mais intérieurement, ça change tout. Ce consentement, inspiré par l'amour et la confiance, me rend libre. Ça, c'est très important, me rend libre. Et oui, parce qu'on peut être bloqué devant une situation. On refuse le réel. On refuse pendant des années plein d'attitudes et on demande à Dieu de sortir de ce réel que Dieu ne voudra pas forcément. Mais si j'y consens, ben tiens, c'est bizarre, souvent la porte arrive, la lumière arrive et Dieu nous dit ben, « c'est ça ton chemin et je vais te guider ». Voilà. Donc il est très important de choisir et de consentir au réel et dire « Seigneur, tu me rejoins maintenant et tu vas m'aider ». Ouais, c'est important, c'est important. Et c'est comme la personne qui a une grande plaie, qui dit voilà, j'étais blessé, machin, je suis en colère. Puis un jour, on lui dit, faut que tu acceptes d'être blessé. Parce que ça va t'aider à accepter d'être soigné. Si tu refuses, ben, tu ne peux pas être soigné. Tu ne peux pas être soigné, ben, tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas avancer. Et consentir au réel, très important. Ça permet à Dieu de tirer un bien de tout ce qui m'arrive. du bien comme du mauvais. Ça permet à Dieu de prendre la main. Si tu acceptes librement ce que tu vis en le choisissant, non le subissant, mais le choisissant, tu dis à Dieu, « Ok, je suis là, fais ton œuvre, je l'accepte comme tu veux. » Et j'en suis détaché, c'est-à-dire non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et là, on rentre dans le plan du Saint-Esprit. Vous voyez, on rentre dans le plan du Saint-Esprit. Pratiquer l'abandon. Pratiquer le détachement, j'en ai parlé. Et c'est pas d'abord, c'est important l'aspect matériel du détachement, mais c'est pas le plus important. On est parfois bien davantage empêché, et même les prêtres, dans son progrès spirituel par l'attachement à certaines idées, conceptions et manières même de faire ce qui sont les nôtres. Voilà. J'ai tel projet sur moi. C'est pas forcément le projet de Dieu. L'attachement à sa propre sagesse et peut-être même le pire obstacle à la docilité de l'Esprit Saint. Voilà. Voilà. C'est très important. Pratiquer maintenant des éléments importants aussi, c'est le silence et la paix. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Il parle dans la paix, la douceur, jamais dans le trouble et l'agitation. Si notre intérieur est toujours bruyant et agité, la voix de l'Esprit Saint aura beaucoup de mal à se faire entendre. Ça, c'est clair. Si tu veux entendre la brise légère, il faut faire silence, il faut cultiver une âme silencieuse. Il faut éviter le bruit de l'information, de la radio, des médias, sans arrêt. Il faut vraiment rentrer dans la prière. Jean de la Croix disait « Ayez soin de conserver votre cœur dans la paix, qu'aucun événement de ce monde ne le trouble, quand bien même tout ici-bas s'écroulerait et que tous les événements nous seraient opposés, il serait inutile de nous troubler, car tout ce trouble nous porterait plus de dommages que de profits. » Même si on tombe dans un gros péché, ne pas se troubler. Accepter la présence de Dieu là où l'on est. Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble. Voilà, très important d'accueillir le silence et la paix pour notre Dieu et le Dieu de la paix, pour vraiment l'entendre. Ça, c'est important. Persévérer fidèlement dans l'oraison. Voyez-vous, je pourrais prendre un exemple, vous plongez dans la piscine, vous êtes trempé. Il faut toujours rester humide, humide de l'eau du Saint-Esprit. Il faut plonger dans la piscine, il faut nager souvent dedans. Quand vous plongez dans l'eau en profondeur, vous n'entendez plus les sons quand vous êtes à la piscine à l'extérieur. Vous n'entendez plus rien. Ce qui fait que quand vous ressortez, vous entendez l'écho des sons de manière tout autre. Une espèce de nouveau bruit acoustique. Ça vous permet de mieux discerner. Mais c'est exactement pareil. Celui qui plonge dans l'eau, il est capable après d'entendre beaucoup mieux. Tiens, là il y a Dieu qui parle. Tiens. Celui qui plonge jamais dans l'eau, il entend tous les bruits, il n'entend rien. Et il faut s'éduquer à ça. C'est une vraie éducation de l'écoute. Pour apprendre à aimer le silence et l'intériorité, pour découvrir ce lieu du cœur où l'Esprit Saint sollicite doucement, l'oraison est indispensable. Et oui, on a besoin de faire prière devant l'adoration, chez soi, en écoutant la présence de Dieu dans son cœur depuis que nous sommes baptisés, nous l'avons de manière stable et durable. Eh bien, d'écouter Dieu, de prendre du temps pour l'écouter. Et si c'est nécessaire, de faire un sas avant l'oraison pour se mettre décompressé et se mettre en présence de Dieu. Et dans ce temps-là, peut-être qu'il ne se passera rien, mais ce temps-là, c'est le plongeon dans la piscine qui va me faire entendre Dieu partout, petit à petit. Et je désire l'entendre. Je désire me détacher de ma propre vision, de ma sainteté, d'accepter ce qu'il me demande. Et j'y vais, je lui obéis dans ses motions. Notre point important, c'est on pratique l'ouverture à un père ou à un tiers. C'est-à-dire, à quelqu'un, on parle de cela. On n'est pas en wifi direct. On a besoin d'une personne qui nous dise « Oui, cela vient de Dieu. Non, cela ne vient pas de Dieu. » Et si nous désirons trouver un père spirituel et que nous ne pouvons pas en avoir, il ne faut pas s'inquiéter, Dieu va faire autrement. Thérèse de Lisieux en a eu quelques-uns, mais ça n'a pas duré. Eh bien, elle a dit, c'était Jésus mon directeur. Eh bien, voilà. Le Seigneur, il n'est pas en manque de moyens. Ce qui est important pour sentir si ça vient de Dieu, c'est que généralement, le démon produit l'agitation. Ça ne vient pas de Dieu, l'agitation. C'est du démon. Donc, nous, c'est vraiment un signe, la paix. La paix, et j'ajouterai, la constance et l'humilité. Une des caractéristiques de l'Esprit Saint, c'est la constance. Et oui, si j'ai un désir là qui me vient, ça vient peut-être du Saint-Esprit. 5 jours plus tard, il n'est plus là, c'est pas sûr. Alors il y a peut-être des inspirations courtes. Mais les grosses inspirations du Seigneur, c'est durable. Et si ça revient sans arrêt, là, ça a goût du Saint-Esprit. Il faut lui obéir vraiment. Pour des vocations, c'est très clair. À un moment donné, si on sent un appel particulier que ça dure, faut y aller. Il y a quelque chose là. On va vérifier avec un perspi quelque chose. Mais là, il y a du dur. Le Saint-Esprit, il parle avec constance. Quand il a une idée et qu'il sent qu'on est sourd, il se répète pour qu'on l'entende. Constance. Et ça produit en nous un fruit d'humilité. Voilà. Et le Saint-Esprit rentre dans une âme humble. Il nous fait opérer, le Saint-Esprit, le bien d'une telle manière que nous sommes heureux de le faire, mais sans présomption, sans gloriole, sans autosatisfaction. Vous voyez ? C'est très étonnant, je me souviendrai, je l'ai dit souvent, mais de ce jeune qui faisait un examen et qui a bossé pour avoir son examen et qui a invoqué le Seigneur. Au moment de l'examen, il a réussi. Puis il a senti que c'était lui, mais c'était tout Dieu. C'était Dieu surtout que lui. Il y avait plein de gloriole. Il sentait que c'était le Saint-Esprit aussi. Mais ça, c'est vrai. Vous voyez, le Saint-Esprit produit des fruits d'humilité. Si vous vous glorifiez, si nous nous glorifions à la suite d'une prière, il n'est pas sûr que ce soit le Saint-Esprit. Ou alors, ça l'a peut-être été, mais comme il est humble, lui, et qu'il aime les cœurs humbles, on ne l'a pas senti, mais il a commencé déjà à partir par la sortie, sur les petits pas. Et après, on est tout seul. Voilà, l'attitude de l'humble nous aide à garder la présence du Saint-Esprit. Marie, l'humble servante du Seigneur, c'est la pleine de grâce. Elle est dans l'Esprit Saint. Voilà. Gros piège. Est-ce que la volonté de Dieu coûte toujours le plus dans les inspirations? Il va me demander des trucs de fou, le Seigneur. Ben non. Évidemment, il faut avoir un cœur détaché. Il faut être prêt à accepter la radicalité. Pas mettre de limites. Seigneur, si tu veux ça, je l'accepte. Je suis prêt. Cette grandeur-là, elle est importante. Dans les commençants, il faut avoir un grand désir, un grand don. Mais toujours est-il, le Seigneur peut nous demander des petites choses. Je vous l'ai déjà dit, à quelqu'un avait été touché parce qu'un autre frère lui avait dit « Prends soin de toi ». Et la personne a compris que le Saint-Esprit est en train de lui dire « Je te demande pas plus, je te demande de prendre soin de toi ». C'était pas un truc énorme, mais c'est une vraie conversion spirituelle pour la personne. De prendre conscience que la motion du Saint-Esprit, c'était « prendre soin de toi ». Ça ne coûtait pas le plus, mais ça coûtait à l'ego. Parce que prendre soin, c'était pas trop ascétique, c'était pas assez glorieux. Ben c'est pourtant ça qui était demandé par le Saint-Esprit. Et si on n'obéit pas à ça, on n'est pas dans le chemin de la sainteté que le Saint-Esprit veut pour nous, par exemple. Donc ça, c'est important. Je voudrais citer encore des petits éléments qui me semblent importants et on arrêtera là. C'est citer Saint François de Sales dans son traité de l'amour de Dieu. Une des meilleures marques de la bonté de toutes les inspirations et particulièrement des extraordinaires, c'est la paix et la tranquillité du cœur qui les reçoit. Car l'Esprit divin est, il est vrai, violent, mais d'une violence douce, suave et paisible. Il vient comme un vent impétueux et comme une foudre céleste. Mais il ne renverse point les apôtres, il ne les trouble point. Le Seigneur peut être très puissant, très violent en nous, d'un amour passionné, mais dans toujours même temps une grande douceur et une grande paix. Voilà. Alors, Saint-Esprit, toi qui agis dans la prière, demandons la grâce de recevoir des inspirations, la grâce de nous y préparer, la grâce d'y obéir fidèlement, et si nous n'avons pas obéi fidèlement, d'y recommencer sans cesse. Viens, Seigneur, Esprit Saint. Amen.